Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons quelques sujets abordés lors de nos émissions précédentes. Nous allons commencer avec Denis Bourgel qui roule en Norton, de la moto tout-terrain ensuite avec Jacques Lheureux, ex-pilote nordiste de 1953 à 1972, puis direction la Belgique. Maxime nous raconte la belle histoire de l'ice café belge, la Cloute. Autre sujet avec Moto Guzzi qui fêtera ses 100 ans l'année prochaine. Et pour terminer, nous allons retrouver Fanette Bossuit qui sillonne les routes de Nouvelle-Zélande en BMW. Nous vous souhaitons une bonne écoute et restez fidèles au 106,6 de Radio Campus Lille.
Il fait mal, hein.
Ça me fend le cœur des trucs pareils.
Moi aussi,
je supporte pas.
Faut se croire aux 24 heures du Mans, tu sais, quand les mecs ils s'amusent à allumer, là. Puis le matin ils se réveillent, ils pleurent parce que le moteur il est cassé. C'est pas un moteur de Norton, ça, Denis. Hein?
Non,
ça c'est du 4 cylindres, ça japonais, ça sent.
Hein.
Ça sent. Ouais. T'es venu aujourd'hui avec ton 600 Norton de 56. Ça apparemment ça va, ça roule bien.
Ça roule très bien, ouais. Bien sûr. Bon, je vais pas faire des milliers de kilomètres avec. Comme j'ai fait avec ma commando, quoi, mais quelque part, ça roule très bien.
T'es bricoleur, quand même.
Ah, il faut un peu connaître la mécanique, oui.
Ouais, quand même.
Il en faut un peu.
Ça reste simple comme mécanique.
Ça reste très simple. Ouais. Personnellement, je suis jamais resté sur le bord de la route avec. Ouais. que ce soit avec mes autres motos anglaises. Si,
voilà, sinon tu roules avec une commando, c'est ça?
J'ai une commando et bon, j'ai une Triumph aussi, quoi, mais de 73.
Et, donc, ah oui, c'est déjà plus des Triumphs, ils ont le sélecteur du mauvais côté.
Ah non, non, sélecteur à droite.
Et encore à droite.
Ah, c'est
ah,
bon. À droite.
Ah oui, c'était en 73, 74 qu'ils ont changé.
Je crois. Comme ma commando, en fait, elle est sélecteur à gauche, elle est 77.
Ah, voilà.
Et ton 600 ?
Sélecteur à droite.
Ah ouais. Et ça va, t'arrives à passer de...
Ah, donc j'ai trois motos avec sélecteurs différents. Des fois, c'est compliqué, quoi.
Tu veux freiner, merde.
Voilà, ouais, ça m'est déjà arrivé. Oula, bon, je passe un rapport, bon, ça va pas bien.
Tu disais que tu roulais beaucoup avec ta commando ?
J'ai fait beaucoup de kilomètres avec. Bon, là, actuellement, elle est en restauration parce que, bon, il y a quelques usures quand même, quoi. La 380 000, la commando.
380 000, la commando.
Donc là, bon, j'ai fait beaucoup de pays avec, dont les États-Unis. Ça, c'était mon plus beau voyage, quoi, que j'ai fait avec.
Le Canada aussi, non?
Le Canada, le Mexique.
Tu t'es pas fait attaquer par un ours une fois?
Il y a un ours qui m'a poursuivi.
Ouais, mais le commando, ça va plus vite quand même.
Bon, ou alors, il est mal réglé.
L'anecdote, c'était mon premier ours. Donc, je me suis arrêté pour le prendre en photo.
Ah,
heureusement, j'ai laissé la moto tourner, quoi. Et puis, quand j'ai sorti l'appareil, il courait vers moi, quoi. Bon, j'ai pris en photo quand même, mais bon, je suis vite passé la première. Et... Bon, c'était l'anecdote, quoi.
Il t'a pas croqué, non? Ça va?
Non, non, c'est bon, c'est bon. Ça va.
Et tu dis ton premier ours parce que t'en as vu d'autres, alors j'imagine.
Il y a un grizzly, j'ai vu un grizzly aussi.
Ah ouais. Et pareil, il voulait te
croquer.
Bah lui,
il était en train de manger tranquille, quoi, donc.
Ah ouais, il a partagé le repas avec
bon,
toi.
Bon, là, je me suis pas arrêté par contre. Je l'ai vu juste sur le bord de la route.
et tout ça en commando?
Avec ma commando, donc c'est bon, ça remonte vieux quand même. C'est en 89-90 que j'ai fait mon parcours de 35 000 km aux États-Unis, enfin l'Amérique du Nord en général.
Ah, t'as mis combien de temps?
J'ai mis 6 mois et demi pour faire ce parcours, quoi. Donc très beau voyage, magnifique, superbe à faire.
T'avais pris des pièces, t'avais ce qu'il faut quand même.
Bah, j'avais
trouve tout là.
Déjà à l'époque, il y avait un bon service internet, donc une excellente communauté aussi Norton dans le monde entier, dont les États-Unis et l'Amérique du Nord. Donc
il y a eu beaucoup de Norton vendus aux États-Unis.
Même là, avec les nouvelles commandos, le plus gros marché, c'est l'Amérique. En France, je ne sais pas combien qu'un homme, il doit pas avoir des masques. Quoi.
Ah ben en même temps, on parle de la Commando 961 Café Racer, qui est toujours au catalogue, hein,
toujours au catalogue,
qui est quasiment faite à la main, on peut le dire.
C'est ça. Ouais.
C'est leur favori à ce niveau-là. Mais comme on en parlait tout à l'heure, il y a un pote à toi qui l'a commandé, il a attendu 3 ans avant de l'avoir.
Trois ans, en plus une des premières, donc il fallait donner un acompte à l'époque, hein, donc là-bas à Donington, moi j'y suis allé aussi, quoi.
C'est à l'usine Norton, en Angleterre.
À l'époque, ouais, c'était à Donington. Maintenant, ils ont racheté le château des voitures Formule 1, je sais plus quoi. Donc maintenant, ils sont dans un château.
Ils font les Norton dans un château.
Ah ouais,
bah, ouais. C'est normal. C'est la noblesse de naissance.
De la mécanique.
Château Williams, je crois. Enfin, je ne sais plus. Enfin, une marque de Formule 1.
Et on peut visiter l'usine. Enfin, le château, du coup.
On peut y aller voir, ouais, bien sûr. Ouais. L'usine, ouais. Ouais, c'est magnifique. Hein, c'est super. Quoi.
Et tu fais partie du club Norton Angleterre.
Oui.
Et aussi du club Norton France.
Voilà.
Et vous faites des rassemblements régulièrement?
Oui, comme là la semaine passée, c'était l'assemblée générale à Châteauneuf-sur-Cher, en dessous de Bourges. Donc
du club France.
Pour parler un peu ce qui s'est passé l'année passée, tout ce qui est en projet pour cette année.
Combien il y a de membres?
Donc actuellement, on est 360 10 membres.
Qui roulent en Norton, donc.
Qui roulent en Norton, ou d'autres motos, entre
autres. Ouais. Et des anciennes, non? Ou des récentes aussi?
Ah, il y a des nouvelles qui sont inscrites, oui. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, quoi.
Et quand tu vas à l'usine en Angleterre, tu peux voir la fabrication, ou l'assemblage, de la commando?
Ah, tu peux le voir. Bon, après, bien sûr, faut peut-être prendre rendez-vous, tout ça. Moi, à l'époque, quand j'y suis allé, bon, j'y suis allé 2 fois. Parce que bon, j'avais vraiment envie de l'acheter quand elle est sortie, quoi. Mais quand j'ai vu tous les... Déjà, quand je l'ai vu rouler la première fois, elle tournait sur un cylindre, sur le circuit de Donington. Donc ça, Ça fait pas bien, quoi.
C'est embêtant quand il y en a que deux.
On est déjà là.
C'est pour ça que c'est intéressant d'en avoir trois.
Déjà là, ça m'a refroidi pour l'acheter, quoi. Parce que j'étais vraiment parti pour, quoi.
C'était un prototype encore, finalement.
C'était l'état proto, quoi. C'est là qu'il fallait attendre 3 ans pour en avoir une, quoi. Voire 2, quoi, au minimum, quoi. Mais bon, ça.
Et finalement, tu l'as pas acheté, alors.
Je l'ai pas acheté et puis je l'achèterai pas, quoi.
Non, elle tourne toujours sur un cylindre, non, quand même.
Non, maintenant ça tourne sur deux, quoi. Mais bon, ils ont beaucoup de problèmes de fiabilité. Puis le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas de service après-vente, quoi. Il n'y a qu'un magasin à Paris, quoi. Et donc c'est compliqué, quoi.
Alors qu'en Belgique, il y en a plusieurs.
En Belgique, il y en a 3.
Ouais. C'est pas très loin, la Belgique. On peut aller s'approvisionner là-bas, éventuellement.
Mais c'est pareil, c'est très long pour voir les pièces. Le souci sur ces motos-là, c'est la boîte à vitesse. Embrayage, boîte à vitesse. Et des fois, t'as une petite pièce qui casse, faut attendre 6 mois pour avoir, quoi.
Faut la refaire toi-même.
Presque, ouais. Moi, j'ai un copain qui tient le magasin à Liège. Et Romain. Et en fait, il fait refaire les pièces.
Bah, oui, non,
parce que ça met à attendre une blinde pour avoir une petite pièce.
C'est un peu comme le club BFG qui font refaire des séries de pièces. Voilà, parce que, bon, bah, effectivement, les usines ont disparu, voilà, elles sont disponibles. Donc.
Comme les Vauxhall, tout ça, très belles motos, quoi, entre autres. Mais donc, c'est dommage, quoi.
Run myself out of town.
Et on a un ex-pilote nordiste, Jacques Lheureux, au téléphone. Jacques, t'es là ?
Oui, je suis là. Bonjour à toi et à tous.
Bonjour Jacques. Oui, alors, mais Jacques Luc, c'est un ch'ti, mais il nous a quittés. Il habite plus dans chez les ch'tis. Non.
Comment est-ce possible ?
Mais écoute, il habite maintenant en Saône-et-Loire, dis donc.
Ah ouais.
Pourquoi tu nous as quittés, Jacques ?
J'ai déménagé il y a une quinzaine d'années parce que les enfants étaient dispersés, donc il n'y avait plus rien de spécial. Et au niveau famille, c'était assez restreint. Donc on avait envie de changer d'air et d'avoir un climat un peu plus doux. Et donc on a atterri ici il y a 15 ans. Et bon, on ne regrette pas, mais ça ne m'empêche pas de suivre toute l'actualité motocycliste.
Oui, alors c'est vrai que tu es toujours en train de regarder, de suivre les championnats. Alors, Jacques, toi, tu as commencé ta carrière en 1953 jusqu'à 1972, c'est bien ça ?
Oui, à peu près en 53, c'est-à-dire c'était je roulais sur une petite moto que mon père m'avait construite, une 65 cm3, parce que ça n'existait pas dans le commerce, c'était un bon mécanicien, il m'avait fait une moto, donc j'ai bricolé pendant un certain nombre d'années avec des motos qu'il me construisait, donc une 65 cm3 qui est passée à 100 après, et puis après il m'a construit une 175 et après une 250 sur une base Putsch avec laquelle j'ai commencé à courir en 1961.
Hein. D'accord.
Et donc en 61 j'ai commencé, j'avais 16 ans, j'ai commencé en Belgique parce qu'en France il fallait 18 ans.
Hein. Et surtout que la Belgique c'était une bonne école de motocross. Hein.
Ouais, bien sûr. J'y ai couru pendant 4 ans en Belgique, donc j'ai fait 3 ans en junior 250 sur une Maiko, et donc la troisième année j'ai fait deuxième du championnat de Belgique junior, et je suis passé inter à la fin de cette année-là en Belgique, et puis j'ai fait donc une saison en inter 250 où j'ai fini quand même septième du championnat, ce qui était pas mal, surtout qu'il y avait des pilotes chevronnés il y avait Joël Robert, Sylvain Gebourg, les frères Wirtz. Donc il y avait du monde, quoi. Donc c'était pas facile de faire des bons résultats, mais là j'étais bien et avec une Maiko qui tenait la route, qui ne tombait pas en panne, quoi.
Ah d'accord.
Ouais.
En parlant de la Maiko, ensuite la CZ, elle était c'était la moto très connue à l'époque avec Husqvarna, quoi. Ouais. Donc tu as acheté une 360 Suzuki. Enfin, tu as commandé une 360 Suzuki chez le père de Joël Robert.
C'était une CZ, hein.
CZ, oui.
Ouais.
Donc, mais l'importateur officiel belge s'est opposé parce que c'était des motos qui étaient données au compte-gouttes. Hein.
Ah ouais, c'était donné au compte-gouttes, et puis comme je devais faire mon service militaire, j'avais pris ma licence en France, donc l'importateur belge était plus d'accord pour me donner une moto, comme elles étaient assez restreintes, donc j'étais un petit peu coincé pour commencer le championnat en France, et donc la CZ que je devais avoir, c'est Hubert Escaillet qui l'avait récoltée. Et donc pour faire la première épreuve de sélection de championnat, donc il m'avait prêté sa Métis 500 Triomphe que j'avais jamais conduit, et je me suis quand même qualifié, quoi, pour le championnat, quoi.
D'accord.
Et puis après pour faire la saison, j'ai pratiquement loué toute la saison une 376Z. C'était le mécanicien Joël Robert qui me l'a loué.
Victor Laïka, c'est ça?
Ouais, Victor. Et donc j'ai fait toute la saison. J'ai gagné une épreuve à Belfast et j'ai fini troisième du championnat national 500 derrière Franck Lucas et Serge Bacou.
Ah oui, c'était déjà
c'était
des points.
Déjà pas mal.
Ah, ouais, c'est sûr. Ouais. Tu as disputé aussi quelques grands prix 500, hein, c'est ça?
Ouais, en 67 et en 68. Donc là en 67, j'avais une BSA Victor et j'ai fait Grand Prix de Suède, où je suis allé avec Jacques Abronsard. au Grand Prix d'Allemagne avec Vidal, et puis au Luxembourg. Hein. Et puis l'année suivante, j'ai fait le Grand Prix d'Autriche avec José Barbaro, on était partis ensemble. Hein,
Et José, d'ailleurs, c'était en Italie, c'est ça hein.
José, c'était au Grand Prix d'Autriche que je suis allé avec lui.
Et c'est pas au Grand Prix d'Autriche qui avait fait troisième ou je sais plus, ah oui, dans la boue ouais.
Là en Italie, j'étais pas, hein, mais donc lui, il avait fait une super course. Là, hein. Ouais.
D'accord. Alors ensuite, il y a eu l'époque Bultaco. Oui. Aussi, l'importateur Franck Lucas qui t'avait prêté une
360. Une 250, et j'avais acheté la 360, quoi, avec laquelle je participais au championnat. Donc, je faisais des courses avec la 250 en Belgique et avec la 360 dans le championnat de France, quoi. Mais j'ai eu beaucoup de soucis avec cette machine qui cassait beaucoup. Et,
ouais, c'était de l'espagnol, hein.
Ça n'a pas été une réussite pour moi. Bon, d'accord. Mais j'ai quand même été sélectionné au Grand Prix de France à la Guépy en 69. Hein. Donc c'est un bon souvenir, quoi.
Voilà. Et alors... pendant toute cette saison, quel est ton meilleur souvenir? Et puis, parce que il y avait une époque où les gens étaient très, une camaraderie existait,
ouais, ouais.
Chose qui n'existe plus, ouais. Maintenant.
Ouais, mais ça c'est.
Il y avait la troisième mi-temps.
Il y a un souvenir que j'ai, c'était quand je cours au début en Belgique, par exemple, c'était une course, c'était en junior 250, et il y avait. Donc à l'époque, Roger Descosters qui commençait en junior 500, hein, et je me souviens le voir arriver dans le parc des coureurs, il avait une deux chevaux camionnette, ah ouais. Avec une 500 Jawa dedans qui était démontée parce qu'elle rentrait pas entièrement, quoi. Et bon, c'était sympa. Et le souvenir cette année-là, c'est qu'il a fait premier dans le championnat junior 500. La même année, il a fait le championnat senior, les dernières épreuves, il a été champion senior, et donc à la fin de l'année, il était inter 500. C'était quand même un souvenir incroyable.
Ouais, ouais, c'est certain.
Et
ouais.
sur le plan camaraderie, en France, bon, j'étais très ami avec Jacob Ronsard, hein, qui était super sympa, c'était un de mes bons amis de l'époque.
Et t'as aussi connu Yvon Delahaye, hein,
oui,
malheureusement.
Yvon Delahaye, malheureusement, qui est décédé en course, et donc j'étais allé à ses obsèques, et on était une dizaine de coureurs, et on a porté son cercueil. C'était un moment très difficile, quoi.
Ouais, ouais, parce que c'était un gars vraiment sympa, Yvon.
Ouais, Yvon, il était très très sympa, gentil, et puis il aurait pu faire une grande carrière.
Ouais, ouais, en effet, ouais. Ouais. Donc, Jacques, tu suis encore les championnats du monde, soit à la télé ou dans,
ouais,
les revues,
bien
quoi.
Sûr, ouais, je suis toute l'actualité, les revues moto, que ce soit actuelles ou anciennes.
Ouais, donc, c'est une autre époque, hein, par rapport à ce que t'as connu, quoi.
Ouais, ça n'a rien à voir parce que. Ben disons à l'époque il fallait travailler d'abord, hein, ouais. Parce que c'est avec le cross on pouvait pas en vivre, et puis j'ai eu des périodes difficiles, et puis dans le travail je faisais des horaires incroyables, je faisais entre 48 heures et 70 heures par semaine, et je partais souvent le samedi midi de l'entreprise pour faire la route, le cross le lendemain, rentrer dans la nuit pour être au boulot le lundi, quoi.
Ouais, t'étais loin des 30... t'étais loin des 35 heures, alors.
Ah ouais, je les ai en double quelquefois.
D'accord.
Ouais.
Eh bien, écoute, Jacques, je te remercie de ton coup de fil, et puis on aura l'occasion de se recontacter, et puis de te reprendre un jour à la radio, sans problème.
D'accord, hein, parce avec que... plaisir.
Voilà, on te souhaite un excellent week-end et puis à plus.
Salut Jacques.
D'accord.
Allez, je te remercie.
Ciao. Et merci de votre appel.
Ok. D'ailleurs. Il revient dans le Nord à boire une bière. Hein.
Ah ouais, ben ça, quand j'aurai l'occasion, on se fascine.
Tu t'avais dit que l'air était meilleur en Saône-et-Loire, c'est pas vrai. Ici, l'air est meilleur.
Il est mieux, il est plus pollué.
Ouais,
ici.
Ouais, d'accord.
Figure-toi qu'à Lille, on peut plus rouler tellement que c'est pollué.
Ouais, mais quand je remonterai, on te fera signe et puis on ira te dire bonjour.
Ok, ben sans problème, Jacques. Allez, salut.
Joël.
Gilou, tu connais cette chanson?
Ah non, je connais.
Ah, c'est l'ambiance hein, dans les studios de Radio Campus aujourd'hui.
Ça sera l'indicatif des deux mots en quatre temps. Qu'est-ce que t'en penses?
Ah non, mais c'est puissant, hein, je connaissais pas.
Ah, mais. Écoute bien, hein, encore.
Et même plus terrible, sont pleins d'admiration. Lorsque tu te déchaînes, ils en ont le frisson. Et s'il arrive que ton visage soit marqué par l'effort, ton cœur reste plein de courage, tu penses alors plus fort. Et c'est sûrement pour cela que tous nous te crions: vas-y Joël, vas-y mon vieux, et en cœur nous chantons. Allez Joël,
allez,
Joël Robert. C'est le petit qu'on entend parmi la...
Bon alors Gilou, on va quand même te présenter, hein, même si tout le monde connaît maintenant, hein, Gilou de Mémotocross.
Ouais. Ouais, tout à fait.
Et tu connais, ouais, ouais. Et tu connais Joël, hein?
Ah oui, Joël Robert, oui, c'est Monsieur Motocross. C'est celui qui a commencé. D'ailleurs, c'était l'époque de Joël Robert et Roger de Coster. C'était l'époque où les stars dans le motocross arrivaient, quoi. Parce que c'était vraiment la bascule. C'est cette époque-là, hein, l'arrivée des motos japonaises, tout ça. Donc, ouais.
Et juste avant toi, j'ai vu Jacques Lheureux. Tu sais, c'était un ancien, ouais, pilote. Alors, il parlait que bon, il avait vu Roger de Coster arriver sur les circuits, oui, dans une deux chevaux. Camionnette, oh, tu sais, avec...
Je suis pas surpris, oui.
Ah, en parlant de Joël Robert partait dans les pays de l'Est avec une Austin, tu sais, ouais, avec la plateforme, tu vois, c'était...
Ah, oh, bah, tu sais, une autre époque, mais quand tu lis les articles dans la presse de cette époque-là, c'est vrai que c'était une autre époque, hein, ouais, mais... Ouais. Mais Joël Robert et puis Roger de Coster, c'est des pilotes qui ont marqué l'histoire et qui marquent toujours l'histoire. Pour les fans de motocross, c'est vraiment les deux qui ont marqué l'histoire. La bascule entre le motocross à l'ancienne, vraiment amateur, les pilotes en noir et blanc. Ah ouais, ouais. Et puis eux sont arrivés avec vraiment à moderniser. Et puis après, ben voilà, on connaît l'évolution.
Off the side of the road.
un demi-siècle que les motards du nord de la France et de Belgique se donnent rendez-vous chaque fin de semaine au Saint Graal des relais motards. L'Ascafé des Ch'tis, avec un brin de notoriété et de prestige en moins. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui la troisième génération, le descendant du grand-père fondateur de cet établissement mythique. Maxime Delaunois, bonjour.
Bonjour à tous.
Tout de suite, ça te met dans le...
Là, il y a à peine le stress. Hein. Alors, c'était si troisième bien génération. Présenté, si bien présenté, l'ami. Voilà. J'avais l'impression que tu parlais de la monarchie belge, là, quasiment. Oui, ça...
c'était alors, ça, hein. On va préciser qu'aujourd'hui, ça va être une émission un peu 50% belge, hein, parce que nous avons un autre belge encore dans les studios, hein, dans les studios de Campus.
Ouais, je me sens épaulé voilà. Aujourd'hui.
Hein. Alors, troisième génération, parce que c'est ton grand-père, hein, qui est Roland, hein, qui est arrivé en 1968 et qui a repris la clôture en 69.
C'est ça. C'est un café qui a été bâti sur les fondations d'une ancienne fabrique de clous.
Voilà, c'est pour ça qu'on
d'où
appelle
le nom, le relais de la cloute.
Voilà.
Et en 1901, on fait table rase de ce passé un petit peu industriel et on construit un estaminet, café, vente un petit peu contrebande, des chambres à l'étage. Bon,
oui, parce que la frontière n'est pas loin. Hein.
Ah ben la frontière, c'est le bout du jardin en fait.
Mais c'est le bout du jardin, donc exactement. On passe le tabac, on passe les cigarettes.
On passe le tabac, on fait les combats de coq. Il y a des réfractaires durant la guerre qui se cachent un peu. Bon, ça c'est l'ancien passé. Et puis, plus récemment, en 69, mon grand-père, revenant d'Afrique, décide de reprendre ce café qui est à remettre.
Qui était au Congo belge. Hein,
à mon grand-père, il a fait 25 ans d'Afrique au Congo belge. Voilà.
Ton père, Marco, va naître là-bas.
Va naître là-bas, exactement.
Mais ça se passe mal pour les Belges au Congo belge.
Bah, c'est-à-dire que oui, des événements assez particuliers vont pousser certains Belges à revenir au pays.
Voilà.
Et donc mon grand-père, en été, il est revenu les poches vides. Et puis bon, là, fallait reconstruire sa vie. Lui, là-bas au Congo, il avait une société de camions... Et une concession Renault, mécanicien moto, il faisait venir les FN et les Sarolia et les Norton aussi au Congo. Et bon, il se dit, je vais faire plus ou moins pareil. Il voit ce relais à remettre le long de la frontière dans la région de Tournai. Il dit, moi, je vais y faire un relais motard et je vais un peu lancer la mécanique
et
aussi.
Et à partir de là, ça commence.
Et d'ailleurs, pour l'anecdote, parce que là, il y a une anecdote de famille énorme. L'accouchement donc arrière-grand-mère a été provoqué par
oui.
un accident de moto.
C'est ça, je me souviens, oui.
Et mon grand-père en est né prématurément. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père avait une Indian Big Chief.
Oui.
Et sur le passage à niveau à Blaton, en Belgique, mon arrière-grand-mère qui était sur le siège passager est tombée, ce qui a provoqué l'accouchement de Roland, mon grand-père.
Ah bah oui Daniel, ça c'est toute une histoire.
Oui, en plus t'imagines, Indian impliqué dans un accouchement prématuré.
Ça a fait les grands titres.
Hein. J'imagine, mais c'était pas avec Tintin.
Non, lui a mené l'enquête après.
Bon, d'accord. Alors. Et ton père Marco est né là-bas au Congo.
Mon père, Marc est né au Zaïre.
Au Zaïre, c'était au Zaïre, oui. Maintenant c'est Zaïre.
Et puis il a vécu là-bas jusqu'à ses 14 ans avant de revenir.
Très bien. Et là, 69, donc Roland reprend la cloute, hein. Et puis ça devient l'endroit mythique, hein,
parce qu'on le disait,
il faut situer la cloute pour ceux qui ne savent pas encore où c'est, où ça se trouve. C'est perdu dans la campagne.
Oui, mais
il y a rien qu'autour. Hein.
Alors autour, 3 km autour, il y a rien. Mais par contre, on est quand même pas très loin. On est au milieu du triangle Tournai, Orchies, Saint-Amand-les-Eaux.
Voilà. C'est ça.
Le long de la frontière française. Voilà. Côté France, c'est Planard et Rumgies qui sont vraiment juste de l'autre côté de l'Aisne, qui fait la frontière.
Et pour accéder à cette cloute, à ce relais motard, il y a une ligne droite de à peu près 2 km.
Ah, même un peu plus long.
3 km.
4 km 5 de ligne droite.
Ça va faire dans les années 75, 80, ça va faire beaucoup de choses. Il va y avoir du spectacle.
Même depuis le début des années 70, donc 70, hein, comme vous dites en France. Mais en fait, oui, c'était l'époque des grosses Kawa, des Honda 750 fours. Et donc forcément, une ligne droite comme ça, dans un endroit perdu, on pouvait lâcher les chevaux, ça amusait, ça épatait.
Il y a
une
moto qui est là. Hein, donc
On a pas mal de photos sur les murs qui racontent ça. C'est vrai que ça a été un très haut lieu de la moto. D'ailleurs, il y a un club qui s'est créé et qui a eu la réputation d'être le club aux 1000 membres. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le lieu était tellement célèbre que Yamaha Belgique a présenté pour le Benelux, la Yamaha 650 XS à la cloute avec Chast Mortimer,
hein,
qui revenait du Tourist Trophy et qui est là avec son trophée énorme sur une table du café. Il y a les photos au mur, la table est toujours là. Et voilà, c'était vraiment un petit témoignage, mais pour dire que la cloute était vraiment assez centrale dans la culture moto
alors,
à ce moment-là.
Alors, on imagine, hein, une ligne droite, 3 km, quand il fait beau, il y a la terrasse devant, on voit la petite la collation minérale. Hein, minérale juste en terrasse, hein, et on voit passer les machines à 200. Ouais. Alors, mais juste là,
facile.
On sent le souffle du vent, hein, qui caresse le visage.
Ah oui. Et ces petites effluves.
Et qui rafraîchit la bière. Oui.
L'eau.
J'en fais pas trop, Maxime.
Non, c'est parfaitement ça. Et alors, quand il y a un petit 500 RGST qui tourne là, on a même des petites effluves de Rissa.
Mais en Belgique, on a le droit, Jean-Louis. Ça, on est en Belgique.
Voilà.
Et si on rentre dans la cloute, dans le relais.
Alors là,
on se dit ici vraiment, c'est...
C'est Notre-Dame de Belgique.
Notre-Dame de Belgique des motards.
Non, mais en fait, mon grand-père, qui est assez conservateur, n'a absolument rien changé à l'intérieur depuis que lui a racheté le bâtiment.
Alors,
donc c'est vrai qu'il y a encore quelques peintures de scènes de chasse qui sont au mur, les boiseries, les banquettes, tout le mobilier que mon grand-père a acheté en 70. Tout est encore là, les tables en formica, le vieux carrelage à terre, tout est là,
oui,
rien n'a changé.
Le bar, hein, déjà, le bar, il est d'époque.
Le bar est toujours là, et puis toutes les pièces de moto qui sont vissées dans les murs.
Alors, les affiches,
des années
70, des concentres, des rassemblements. Ouais.
Évidemment. Il y a tellement eu un passé qui est passé par là que tout est là au mur et c'est vrai qu'on a l'impression de s'immerger vraiment dans le passé. Et c'est pas du reconstitué. Et ça, c'est vraiment agréable pour les gens qui viennent nous voir.
Et pour vous dire qu'à tel point, Roland est décédé il y a quelques années.
Il y a 2 ans maintenant.
Il y a 2 ans et il est enterré derrière dans le jardin.
Non, ça on ne peut pas.
Il est pas enterré,
il est au cimetière, mais par contre, il y a quelques cendres qui ont été déposées au pied d'un chêne.
Voilà.
Parce que bon, c'est vrai que ça a été finalement le lieu de sa vie après l'Afrique. Et c'était, je trouvais, un bel hommage que de lui permettre de rester là éternellement.
Just be that way.
maintenant, on va parler de l'histoire de Moto Guzzi. Ça tombe bien, on va fêter ses 100 ans l'année prochaine, Nicolas.
Oui, oui, voilà. Donc, en fait, toute l'histoire démarre à la Première Guerre mondiale. À la Première Guerre mondiale, il y avait Carlo Guzzi, qui était déjà un mécanicien confirmé. Il travaillait sur le lac de Côme, sur les bateaux, en fait, plutôt. Et il se retrouve mobilisé pour entretenir les hydravions. Et les hydravions, en fait, ils combattent dans la lagune de Venise. Ils combattent les Autrichiens et les sous-marins allemands. Il y avait déjà des sous-marins, mais c'est des sous-marins primaires. Donc, il y avait juste on les voyait à fleur d'eau. Et donc, avec les avions, ils arrivaient à les dégommer, ouais. et là, ils rencontrent deux pilotes d'hydravions, Giorgio Parodi et Giovanni Ravelli. Et tous les trois, en fait, ils découvrent qu'ils sont passionnés de moto. Et le soir, pour décompresser, ils boivent un coup, ils discutent. Et Carlo Guzzi, il explique ce qu'il aimerait bien construire comme moto. Et avec l'enthousiasme de ces retrouvailles le soir, là, ils font un pacte. Et ils disent, bon, bah allez, dès que la guerre est finie, on va se lancer dans ce projet-là. Toi, Carlo, tu construiras les motos. Giorgio, ben lui, c'est son père, c'est un armateur génois il a de l'argent, donc il dit moi je m'occupe du financement. Et puis Giovanni Ravelli, c'est un pilote d'avion et pilote de moto déjà. Il a déjà gagné des courses, il a gagné notamment des courses en Espagne. Il est connu à cette époque-là en Italie, tout le monde a un surnom. Et son surnom c'est le Diavolo, le diable, et parce que c'est un fou du volant, un fou du guidon. Et il se dit moi je ferai briller la moto en compétition et voilà. Et à la fin de la guerre, malheureusement, Ravelli se tue en essayant un avion français, un Newport 11. Il fait un test de longue durée et à l'atterrissage, le moteur se bloque et il tape et il se tue. Et c'est d'ailleurs en son souvenir que l'emblème de Moto Guzzi, c'est un aigle aux ailes déployées, ouais. Pour faire référence à leur compagnie d'aviation et à Ravelli. Mais finalement, le projet tient bon et la famille Parodi, elle apporte les fonds. Et Guzzi, Carlo Guzzi, il crée un petit atelier à Mandello del Lario, donc c'est au bord du lac de Côme, hein, c'est un endroit superbe également. Hein. D'ailleurs, l'usine est encore à la même place aujourd'hui.
Alors, c'est incroyable que 100 ans. Ouais. Cette usine est restée.
Elle est restée là, elle est toujours
c'est l'origine
grandi.
De Moto Guzzi.
Elle peut pas s'agrandir beaucoup parce que d'un côté il y a le lac, de l'autre côté il y a la montagne. Ouais. Elle est toujours là. Et l'adresse c'est Via Parodi, donc ils ont conservé le nom du fondateur pour la rue. Et son idée à Carlo c'était de construire une moto très maniable, avec un centre de gravité le plus bas possible et un bon refroidissement. Alors il construit un mono 4 temps horizontal, semi-culbuté. Et contrairement aux autres constructeurs de l'époque, le semi-culbuté, lui, il fait la soupape d'échappement qui est culbutée. Parce qu'elle a en tête, comme ça, elle a un meilleur refroidissement pour l'échappement. Il met des côtes super carrées pour mettre des grosses soupapes, c'était pas courant à l'époque. Et un cadre surbaissé, elles sont très basses. Et ça marche. Dès 1921, la moto gagne des courses et les Guzzi se vendent. Et c'est marrant parce que les côtes moteurs de cette première moto, c'est encore celle des derniers Mono Falcon en 1976. Donc ils ont quand même fait durer leur idée. Hein. Et Carlo, il a un frère. Son frère s'appelle Giuseppe et il est ingénieur, son frère. Et c'est lui qui a construit les bâtiments de l'usine et qui a construit la centrale hydroélectrique qui alimente le Mandello et l'usine en électricité. Alors, à ce sujet-là, la Miche, il y a un petit...
Moi, j'avais visité l'usine Moto Guzzi. Et donc, il y a une soufflerie, mais le ventilateur, c'est énorme. Hein, c'est des palmes qui doivent faire, je sais pas, 5-6 mètres de longueur. Hein. Ils ne peuvent utiliser la soufflerie que la nuit. Parce que sinon, la journée, ça prive Mandello de courant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant dans Mandello. Donc, ils sont obligés de faire les tests de soufflerie la nuit.
Oui. En fait, cette soufflerie, elle existe depuis les années 50. Et effectivement, au début, quand on commençait à l'utiliser, il n'y avait plus de courant pour toute la ville. Tout le monde était dans le noir parce qu'il faisait tourner. Donc, tout le monde était au courant quand ça tournait là-haut. Ouais. Et donc, ce frère de Carlo, qui est Giuseppe, il est aussi passionné de moto. Et il adore les voyages en moto. Et tous les étés, il part seul sur sa Guzzi. Et il a aligné une série impressionnante de raids. Il a été joué au Cap Nord et tout ça, hein, avec les motos de l'époque. Hein. Et un jour, au fin fond des Carpates, il casse son cadre. C'était des cadres rigides. Et en bon ingénieur, il bricole un truc avec des chambres à air, des couvertures, il bricole. Il revient à Mandello et il dit à son frère, écoute, elle marche vachement mieux comme ça. Et donc, ils passent tous les deux à la planche à dessin et ils inventent les prémices de ce que ça sera une moto avec un cantilever, en fait. Ils mettent un boîtier avec un caisson de ressort en dessous du moteur, les prémices d'un bras oscillant qui appuie dessus. Et puis, pour freiner les mouvements, ils mettent des compas à friction. Et puis, ils ont inventé la moto suspendue. Et à l'époque, on n'y croit pas du tout, surtout en compétition, parce qu'en compétition, tout le monde est en rigide. Et il a fallu qu'en fait, c'est Stanley Wood, au TT, en 1935, il a gagné en lightwear et en senior, sur Guzzi, avec cette suspension. Et là, c'était la première fois qu'une moto étrangère gagnait, et la première fois qu'une moto avec des suspensions entièrement suspendues gagnait. Donc ça a été la petite révolution, on en a beaucoup parlé à l'époque. Et Guzzi, ont été inventifs, hein. On a toujours l'impression d'une vieille marque. À l'époque, ils se sont essayés à toutes les architectures moteurs possibles et imaginables, hein. Ils ont même fait un V8, hein, et ça a été une période dorée pour Guzzi. Alors, à la fin, en 1957, ils ont arrêté les compétitions parce que les finances commençaient à manquer. Les années 50, c'est compliqué. La fin des années 50, début des années 60 pour la moto, c'est très compliqué. Mais quand même, 3300 victoires, 14 titres mondiaux et 11 victoires au TT. Donc, c'était des motos qui marchaient. Et justement, ces années 50, elles ont coïncidé avec le décès des fondateurs. Parodi et Guzzi sont Parodi en 55, Guzzi en 64. Ils sont disparus au mauvais moment parce que les années 60, c'était les années noires de la moto. Hein. En France, il y avait la 2 chevaux Citroën, il y avait la 4 chevaux Renault.
C'est parce que la voiture est par rapport à la moto, le prix est moins cher des voitures que des
motos. Voilà, on commence à avoir des voitures pas trop chères, ouais. Les gens ils préfèrent une bagnole. La Coccinelle en Allemagne, la Fiat 500 en Italie, tout le monde veut des bagnoles. Il y a plus que en deux roues, il y a plus que les cyclos qui se vendent. Et donc il y a une société de gestion qui fait l'intérim et Guzzi est mal en point et c'est la police qui va sauver Guzzi de la faillite. Pourquoi? Parce que l'État lance un appel d'offres pour renouveler son parc de motos et il veut une grosse moto, hein. Ils avaient déjà des monos Guzzi, ils veulent une grosse moto et il n'y en a pas. Et Carlo Guzzi, il avait laissé son ingénieur Carcano un peu donner libre cours à son imagination. Et Carcano, lui, sa femme avait une Fiat 500, il avait démonté le moteur et il avait foutu un moteur qu'il avait construit, un bicylindre dedans. Il roulait à 140 avec, il prenait son pied à débouler à 140 avec une petite Fiat 500 qui roulait à 80 à l'époque. Et donc, ce moteur-là, il l'a utilisé finalement pour une commande militaire de 3-3, donc c'était pas un 4-4, c'était un 3-3. Il l'a adapté à la moto. Et c'est ce qui va devenir la V7.
La V7. Hein,
c'est mythique. C'est ce qui est ouais. L'origine du moteur Guzzi tel qu'on le connaît maintenant. C'est ça. C'est ce moteur-là. Et cette moto, elle est massive. C'est une grande routière. Hein. Initialement, c'était un 700 cm3. Et ça va connaître un succès commercial aux États-Unis. Et c'est ce qui va, faire redémarrer la marque et la maintenir. Parce que elle a un look qui plaît aux Américains. Ils l'appellent The Buffalo et elle a un caractère de locomotive. Hein. C'est vrai que le caractère du moteur Guzzi, il était déjà là. Hein, c'est un caractère où il y a un petit peu beaucoup d'inertie, mais une fois que c'est lancé, c'est une locomotive. Et deuxième analogie ferroviaire, si on veut, pareil pour l'incliner, il faut un petit peu se bouger pour la mettre sur l'angle, mais une fois qu'elle est sur l'angle, elle bouge plus, c'est un rail. Donc il y avait déjà tout l'ADN de ces motos Guzzi telles qu'on le connaît, et donc et ça va donner naissance à la première Calife. Donc voilà, on peut peut-être faire une petite pause pour reprendre notre souffle avant d'aborder les V7 Sport, les Le Mans et un petit peu la suite de l'aventure actuelle. We'll be right back.
on termine l'histoire de Moto Guzzi qui, on rappelle, fêtera ses 100 ans l'année prochaine. Et ça se passera, alors je sais pas si ça se passera au mois de septembre.
Si, si, début septembre. Début septembre. Dans les premiers 10 jours de septembre, tous les ans, à chaque fois.
Donc, près du lac de Com. À Mondello de Lario.
Une superbe région, hein. C'est vraiment une belle région, super agréable à faire en moto. Les petites routes le long du lac, l'arrière-pays, c'est vraiment très, très agréable. Et oui, donc on retourne là-bas avec ce moteur en V, hein. C'est un bicylindre en V culbuté. C'est un petit peu original comme fabrication. C'est tout en alu, un carter monobloc. Vilebrequin, Abraham, Sopalielis, hein. Et d'ailleurs, on dit toujours, nous, les guzistes, le secret d'une guzie, c'est qu'il y a du jeu partout. Hein, les BM, leur secret, c'est la pompe à huile balèze. Nous, c'est parce qu'il y a du jeu, que ça tient le coup. Et, donc ça peut chauffer un peu, il y a de la marge. le véritable coup de génie de ce moteur, là, ça va être Lino Tonti, qui va remplacer l'ingénieur précédent, Carcano, qui est parti à la retraite. Et lui, il va avoir envie de reprendre les préceptes de Carlo Guzzi en son temps. Hein, Carlo Guzzi, c'était quelqu'un qui aimait les motos sportives. Et avec cette espèce de vieille mémère, il va essayer de faire une moto sportive. Et il va réussir, hein, puisqu'il va réutiliser ses préceptes. Abaissement du centre de gravité, amélioration des performances, priorité à la tenue de route. Donc, il va remplacer la dynamo qui est trop haute par un alternateur en bout de vilebrequin. Il va concevoir un cadre démontable qui en serre au plus près le moteur de la V7. Et puis, mettre des grosses soupapes, un gros carbu et donner naissance à une moto considérée comme la plus belle du début des années 70, la V7 Sport. Il y a Saarinen qui va l'essayer. Ils vont la faire essayer à Saarinen. Michael Wood, hein, qui après l'essayer, dira qu'elle a le meilleur cadre de série jamais conçu. On va parler du moteur, hein, Michael Wood, parce que c'était quand même un moteur avec beaucoup d'inertie. Et en 72, arrive, alors que vient juste de naître la V7 Sport, prend les rênes de l'entreprise pour jusqu'aux années 90, un drôle de zigoto. Il s'appelle Alejandro de Tomaso. Alors c'est un gars qui a fait de la Formule 1, c'est un pilote argentin. Il s'est fait plus ou moins virer d'Argentine parce qu'il s'est pris la tête avec le pouvoir là-bas. Et il va créer sa propre marque de voiture, de Tomaso. Il va racheter Maserati, Innocenti, et puis Guzzi et Benelli. Donc, c'est un gars qui a de l'argent, qui est ambitieux. Il s'est mis en tête de battre les Japonais sur leur terrain en proposant des copies quand même franchement moins bien finies de leur production, et surtout sous la marque Benelli. Hein, il a fait des 4 cylindres, des bicylindres, un 6 cylindres, Benelli. Il y avait des Guzzi qui étaient rebadgés, enfin des Benelli rebadgés Guzzi pour étoffer la gamme. Bon, c'est pas la meilleure période, mais il va avoir quand même le mérite d'avoir maintenu la marque et surtout de reconnaître qu'il s'est planté. Et de revenir aux fondamentaux de Guzzi, hein, il va donner naissance au Le Mans et il va créer la lignée des petits blocs, hein, à partir de la V50. Et la moto repart, hein, moto Guzzi sera novateur, le freinage intégral, ils ont inventé ce système, hein, en le faisant vraiment de façon très simple, hein, c'est simplement la différence des tuyaux qu'ils ont une différence de pression. C'est vraiment un truc hyper simple.
Si on freinait l'arrière, en fait, la moto freinait avant et arrière.
Ouais, c'est ça. La pédale, elle actionne, il actionne des deux côtés. Ouais. Et en fait, la pression, elle se fait plus ou moins fort parce qu'ils ont mis des diamètres différents pour freiner. Ça marche très bien. Avec leurs essais en soufflerie, ils font des motos carénées qui sont un petit peu plus regardables que les BM de l'époque. Ils ont aussi fait une moto automatique, un petit peu trop tôt sûrement, avec le convertisseur, parce que ça a pas beaucoup marché, mais dans les années 80, on se battait pour les avoir, parce que les gens qui avaient un handicap, ils adoraient cette moto.
C'était
parce
la Converte.
Ouais, la Converte, 1000 Converte, une grosse mob, 2000 cm3. Et puis débute la lignée des Le Mans, hein, avec le passage à 850, puis en 1000, du bicylindre. Et puis la déclinaison un peu géniale, quoi, de modèles sportifs ou tourisme, très typé, mais à partir quand même du même cadre et de la même base moteur. Hein, on change les éléments dans le moteur pour le rendre plus sportif, et puis ce cadre, on l'adapte, et il a servi à faire des motos de tourisme et des motos plus sportives. Et là, Guzy vient un petit peu sur ses acquis et elle se réveille dans les années, à la moitié des années 80, parce que il y a un gars outre-Atlantique, un dentiste qui s'appelle John Whitner. Et alors que Guzy faisait plus grand chose, John Whitner, lui, avec en trafiquant des Guzy, il a réussi à gagner le championnat en 84 et en 85, le championnat US d'endurance et la bataille des Twins. Et il a préparé une Guzy très modifiée pour Doug Drawnett qui va remporter encore une fois en 87 la bataille des Twins américaines. Et là, les dirigeants de Guzy se réveillent un petit peu en sursaut. Ils regardent ce qu'il fait et ils vont en faire un consultant privilégié de l'usine. Et ils vont reprendre l'idée de son cadre et de sa façon de traiter le moteur pour la Daytona, la Santoro, la 1100 Sport, la V11 Sport. Et puis en même temps, ils vont essayer de resserrer la qualité de production. Parce qu'à l'époque, Guzy fabriquait tout sur place. La fourche est fabriquée sur place, les cadres sont soudés sur place. C'était une usine où on fait tout, c'était pas une usine de montage. De Tomasso avait essayé de décentraliser ça, parce que comme il avait des usines d'Oceanti, puis qu'Innocenti s'est cassé la gueule, il voulait transférer l'usine à Milan, parce que c'est bien plus facile, il y a l'autoroute partout, c'est plus facile. Et là, il y a eu des grèves.
Les commerçants de Mondello ont fermé baissé les volets.
Un peu comme à Meriden à l'époque en Angleterre. Et donc, c'était Moto Guzy, c'est à Mondello, point.
Ça doit rester là.
Et finalement, il s'est resté. Et dans les années futures, il va y avoir des grèves pour la même chose. D'ailleurs, en fait, c'est Aprilia qui a racheté la marque en 2000. Et puis, alors là, Aprilia, eux, justement, ils faisaient appel à des sous-traitants à tout azimut, mais avec des mauvais contrôles de qualité. Et donc, c'est à ce moment-là que les motos vont commencer à souffrir de soucis de fiabilité. Et ça rechange de main en 2005. C'est maintenant Piaggio qui a la charge de relancer la marque. Et Piaggio a essayé, pareil, de délocaliser la production dans l'usine Aprilia qu'ils avaient rachetée aussi à Noël, qui est plus pratique, qui est moderne. Parce que là, c'est l'usine de Mandello, c'est l'usine historique. Hein. Il y a des carreaux cassés, c'est vraiment des vieux bâtiments. C'est ceux qu'avaient construit Giuseppe Guzzi. Hein. Donc c'est vraiment une antiquité. Mais ça a son charme. Il y a eu la grève, il y a eu tous les motoclubs Guzy du monde qui ont écrit à Piaggio et qui ont fait des pétitions. Il y a les habitants de Mandello qui ont fermé leur volet en signe de protestation. Et finalement, Piaggio a été dissuadé de poursuivre dans cette voie et
de laisser la usine à Mandello.
D'ailleurs, c'est une des rares usines maintenant où, parce qu'il y a quand même Triumph, BMW, KTM, ils fabriquent en Thaïlande, en Inde, en Chine. Et là, tout est resté contre vents et marées sur le site historique. On continue d'y produire des motos à fort caractère dans le site historique. Et il y a une petite anecdote. La fameuse moto de Giuseppe Guzzi avec laquelle il a fait tous ses raids. Elle existe toujours, cette moto, elle est à Mandello, et il y a un membre qui s'appelle Suki, qui est un membre du motoclub de Mandello, c'est un champion olympique d'aviron, et il a pris cette moto en 1991, et il a refait la dernière balade de Giuseppe Guzzi jusqu'en Laponie, aller et retour avec la même moto, et sans aucun souci, quoi. C'était des motos très solides, et justement Giuseppe Guzzi avait jamais ouvert son moteur pour voir justement combien elle pourrait faire. Et la moto tourne toujours, elle est toujours là, et elle a été donnée du coup au motoclub de Guzzi de Mandello. Ils en ont la charge. Donc voilà, effectivement, donc l'année prochaine, y a une grande fête qui est prévue pour fêter les 100 ans. C'est pas toujours qu'on fête les 100 ans d'une marque de moto. Hein, il n'y en a pas beaucoup qui ont été jusque-là sans interruption de production, avec des hauts et des bas forcément. Mais bon, c'est tout un pan d'histoire. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer encore, parce que c'est vrai qu'ils ont du mal. Ils ont du mal à cause des normes de pollution. Hein. Ils n'ont pas la capacité financière de pouvoir reproduire des moteurs avec des normes qui changent. Ils sont restés aux moteurs à air. Ils vont devoir investir lourdement pour passer le cap. Donc, mais bon, et, on espère fêter tout ça dignement l'année prochaine à Mandello en septembre.
Voilà, et on peut visiter hein, l'usine hein, chaque septembre, chaque année, on peut visiter. Alors, l'usine. Hein.
On peut visiter, le musée tout le temps, sauf au mois d'août parce qu'il est fermé au mois d'août.
Oui.
Mais on peut visiter l'usine à chaque fois en allant au Guzzi Days en début septembre.
Voilà, et on retrouve le résumé de cette histoire Moto Guzzi là dans le calendrier, page 48.
Si vous êtes intéressé par Moto Guzzi.
Fanette Bossuit qui est en train de se faire un trip là-bas en moto. Je suis sur le site là, hein, et je regarde ses photos, c'est fantastique.
Ah bah écoute, bonjour Fanette. Tu nous entends bien?
Bonjour. Voilà. Bonsoir. Bonne nuit.
Écoute.
Je rappelle qu'il est, il est minuit là-bas en Nouvelle-Zélande.
Oui. Hein. Ah bah je vais laisser parler la miche parce qu'il est tout content de t'avoir là à l'antenne. Et Fanette, si je commence en disant n'oubliez pas d'oser et d'être fou, ça marche plutôt bien.
Oui.
c'est ce qui s'est passé il y a un an. Quand est-ce que tu as commencé à penser à partir en Nouvelle-Zélande?
Alors, j'ai commencé à préparer le départ il y a un an, mais ça faisait déjà encore une année précédente que j'avais ce projet en tête. Donc, ça faisait 2 ans.
D'accord.
2 ans que j'avais cette idée en tête et puis que j'osais pas encore trop me lancer à l'aventure.
La destination, mais avec la moto aussi ? C'était un projet rouler là-bas ? Oui, d'accord.
Oui. Ça faisait longtemps que j'avais.
Parce qu'il faut préciser que tu roules en moto, hein. Tu fais le trip là-bas. J'ai vu toutes les photos, hein. Tu t'as fait le nord, du nord au sud de la Nouvelle-Zélande. Et tu t'es, tu t'es acheté une BMW.
Bon, on va y aller doucement. Ah bah, allez, on va te laisser parler, Fanette. Donc, il y a un an, tu as demandé un visa. Et qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer et à oser le faire?
On dit souvent, si j'avais le temps, je ferais ça, et puis ça. On pense beaucoup aux choses qu'on aimerait faire, aux personnes qu'on aimerait aller voir. Et puis, pour ma part, au pays qu'on aimerait visiter. Mais on a rarement le temps pour tout ça. Alors, comme le temps ne nous attend pas, et puis que moi, j'ai vu se pointer mes 30 ans sur le pas de la porte, j'ai pris FISA, mes rêves à demain, mon sac sur le dos, et puis une petite dose de « Yalla, on y va ». Donc, l'an dernier, j'ai fait ma demande de visa, ce qu'on appelle un permis vacances-travail, qui permet les moins de 30 ans à travailler puis voyager pendant un an. Voilà. En Nouvelle-Zélande. Donc j'ai eu une petite décharge électrique qui m'a dit c'est maintenant ou jamais.
Et tu es partie le 31 octobre dernier.
C'est ça. Alors j'ai passé quelques années en Allemagne et puis avant de partir à l'autre bout du monde, j'ai décidé de partir d'abord à la découverte de notre pays et j'ai sillonné les routes de France à partir de juin, mais à vélo. Et donc, 3 mois plus tard, et puis quelques 5 000 kilomètres plus loin, c'est ça. J'ai pris...
C'était aussi un très beau voyage, et on peut te retrouver, justement, tu avais tenu ton journal à l'époque.
C'est ça, oui, sur le même site.
Et donc là, c'était une mise en jambe, on va dire.
Ouais, c'est le cas de le dire. Une petite mise en jambe. J'avais envie de, avant de partir de l'autre côté du globe, je trouvais qu'il fallait d'abord que je connaisse un peu plus mon pays. Et j'avais envie de justement d'aller voir mes amis et ma famille. Et surtout, j'avais aussi envie de me tester un petit peu en termes de voyage solo et puis voir un peu quelles étaient mes ressources, mes capacités en termes de camping et puis de vie un peu itinérante. Voilà. Donc, c'était un peu un test, en effet.
Ouais. Et je pense que tu as testé aussi ta capacité à l'effort. Parce que il a fallu en fournir.
Oui. Alors, c'est pas le même effort. C'est plus léger de remonter, de soulever un vélo, hein, je confirme. C'est beaucoup plus facile de remonter sur le vélo que de remonter 200 kilos de BMW. Mais c'est tout autant d'efforts, ouais. Donc, j'ai décidé de partir sur les routes de Nouvelle-Zélande, mais avec un petit moteur au milieu des deux roues cette fois-ci, quand même.
Et sur le mode d'un financement aussi, justement, en pouvant travailler, même si ce n'est pas financement, disons, pouvoir t'aider à voyager, et puis aussi à découvrir vraiment la vie auprès des locaux.
Oui. Alors l'idée, je pense que le nom du blog, il résume assez bien l'idée du voyage. Donc le visa que j'ai demandé s'appelle en anglais Work and Travel, donc voyager, travailler et voyager. Et j'ai renommé mon blog Work, Travel and Ride in New Zealand. Et l'idée, c'est vraiment, on m'a souvent reproché d'être dilettante, donc de toucher un peu à tout. Moi, je le prends comme un compliment. Et donc, j'ai vraiment décidé, en fait, d'aller faire un petit peu plein de choses, de rouler, de voyager, et puis aussi d'aller découvrir un peu la vie des gens dans ce pays, en travaillant dans des fermes et puis dans tout type de domaines différents. Voilà, de faire des choses complètement différentes de ce que j'avais fait avant.
Donc là, tu es à peu près à 115 jours, c'est peut-être pas un jour près, mais de séjour en Nouvelle-Zélande.
C'est ça, voilà. Ça fait 4 mois, bientôt, que je suis arrivée ici.
Donc, l'ami, je l'évoquais tout à l'heure, au départ, ça a été l'achat d'une moto.
Rouge.
Oui.
mais surtout d'une BM.
Ah, tu vois que je sais tout, hein, Fanette. Même si tu es à des milliers de kilomètres de la France,
tu ne t'appelles pas Cindy, mais bon.
W rouge.
Exactement. Alors, j'ai pas fait exprès de choisir ma couleur préférée, c'est le hasard. J'ai pris un peu ce qu'il y avait, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Pour le coup, je l'ai vraiment trouvé sur ma route. Ouais, donc une BMW, une 650 GS de 2006, en très bon état, avec 72 000 km au compteur. Et puis j'en ai rajouté quelques 10 000 km depuis que je l'ai acheté. Voilà.
Donc tu as juste fait quelques petits aménagements pour la hauteur de selle en l'occurrence?
Même pas, en
même
fait.
Pas finalement.
Au début, oui, j'ai été très impressionnée au début par la hauteur.
J'avais le projet de
creuser la selle pour essayer de gagner un petit peu quelques centimètres au sol. Et puis finalement, en fait, avec le poids des bagages qui écrase l'arrière de la moto, ouais. Et en prenant en main la moto, j'ai fini par toucher avec mes pieds, quoi. Voilà.
Elle a un très joli nom, cette moto. Un très
Elle
très joli.
Red Bumblebee.
Alors, explique-nous, qu'est-ce qui a motivé ce choix de nom?
Red Bumblebee. Ben en fait, c'est juste que avant d'avoir vu plein de moutons dans ce pays, c'est surtout plein de bourdons que j'ai vu partout et que elle a des formes très féminines, cette moto. Elle est grosse à l'avant, elle est grosse à l'arrière et j'aime beaucoup. Voilà.
C'est ça, toi, les formes féminines, grosse à l'avant, grosse à l'arrière.
Avec une taille de guêpe, au nom de bourdon.
C'est curieux, je suis un peu épaté.
Nous aussi.
Disons que ça correspond plutôt aux critères locaux. Voilà.
Donc, avec la moto, c'est la route. Et tu as pu découvrir justement les infrastructures routières de la Nouvelle-Zélande, on va dire.
Les infrastructures, ouais, c'est un mot.
Oui, parce que c'est beaucoup de routes gravillonnées.
Exactement. C'est vrai que c'est un pays dans lequel il y a plus de moutons que d'habitants. Donc on construit pas forcément de très belles routes bien goudronnées pour les moutons ou pour les fermiers. Donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle les gravel. Donc il y a beaucoup de routes, de pistes, de gravier, de terre dans une grande partie des terres intérieures.
Écoute, Fanette, voilà. Je propose de te retrouver juste après une petite pause musicale. Et puis, on continue la route avec toi.
Avec plaisir.
Yeah.
d'ailleurs part faire de la moto là-bas en Nouvelle-Zélande avec Fanette Bossuit.
Oui, on reprend la route avec toi, Fanette. Donc,
avec plaisir.
Vas-y, je te laisse parler. Avec plaisir pour nous décrire ce qui est sublime. Et moi, j'invite tous les auditeurs à se rendre sur Polar Step pour voir tes photos. Elles sont carrément magnifiques.
Merci. Oui. Alors, c'est sûr que je conseille vraiment à tous les motards de venir ici et puis de se lancer sur les routes. Les routes sinueuses, les routes de gravier, les routes bitumées. C'est vraiment un plaisir de rouler ici. Moi, j'apprends tout depuis que je suis ici. Pour moi, j'apprends la moto seulement depuis 4 mois.
Et tu t'es donné des moyens aussi pour le faire avec un peu de sécurité, malgré les aléas de ton voyage, en participant à des stages de conduite sur place.
Oui, exactement. Qui sont proposés. Oui. Ben, il faut dire que j'avais pas roulé depuis plus d'un an. Quand je suis arrivée ici, puisque la dernière fois, une voiture m'est rentrée dedans à Berlin et ma petite Kawasaki 500 a fini sa course à ce moment-là. Donc, j'étais pas très à l'aise et j'ai décidé de faire des petites formations pour me rafraîchir un petit peu et puis remettre en selle. Et d'ailleurs, là, je vais, mercredi prochain, je fais ma première formation sur circuit.
C'est génial. Voilà.
Pour apprendre encore à mieux appréhender les virages, à mieux appréhender les courbes. Ça reste encore une de mes faiblesses et j'ai vraiment décidé de travailler sur ça.
Mais ce qui est super à te suivre, c'est que justement, comme je disais, on va avec toi sur la route et des routes qui peuvent être très surprenantes parce que tu dis des pistes gravillonnées qui parfois sont traversées par des rivières plus ou moins ou des cours d'eau plus ou moins importants.
Oui.
Tu vas à la découverte comme ça du pays.
C'est ça, mais c'est vraiment l'intérêt aussi dans ce pays ici, c'est de partir sur les routes hors piste et c'est vraiment la moto idéale pour ça. Donc il faut pas prendre une moto de route classique, faut prendre une moto comme la BMW, une moto mi-route, mi-adventure bike. C'est parfait pour pouvoir se lancer sur les routes de gravier. Alors c'est génial, hein, il y a du vent à vous décoller le slip, de la pluie à vous tremper les rotules, des moutons, des
vaches.
C'est
comme ça là-bas, c'est comme l'Écosse alors.
Oui, mais x10.
C'est assez particulier en fait, j'ai essayé de me renseigner sur la météo de la Nouvelle-Zélande, ça paraît très contrasté avec des espèces de micro-climats comme ça suivant les endroits où on peut se trouver.
Oui, et puis ça change toutes les 2 heures.
Hein. Ah oui, d'accord.
On ne peut jamais prévoir. On ne sait jamais.
Alors, les gens sont sympas là-bas ?
Oui, très sympas. Bon, sur la route, les locaux en 4x4 sont un peu impatients. Les touristes en van sont un peu inconscients. Donc, tout ça à moto, quand on découvre, il faut être vigilant. Mais les locaux, les kiwis, comme on les appelle, font beaucoup, je pense, pour la plupart de motos, au moins de la motocross dans les fermes. Et du coup, ils ont tout de suite, j'ai énormément de sympathie. Dès que je m'arrête quelque part, j'ai tout le monde qui vient me parler. On m'offre à manger, on m'invite même à dormir chez les gens directement. Enfin, c'est vraiment un accueil hyper chaleureux.
Tu as rencontré des rugbymen parce que c'est le pays du rugby là-bas, la Nouvelle-Zélande.
Eh bien non. Alors là, je vais décevoir. Je n'ai pas encore rencontré de rugbyman.
À moto, c'est peut-être difficile. Ils n'ont pas forcément leur ballon sous le bras. Mais tu disais que voyager seul à l'autre bout du monde, avec tous les défis et difficultés que représente la moto, c'est pas finger in the nose. Tu adhères toujours à ce que tu as écrit ?
Non, ouais. J'adhère toujours. Les premières semaines, je me suis quand même gaufrée quelques fois. On a froid sur la selle, on a froid dans la tente. Très honnêtement, après quelques semaines, je me suis vraiment demandé, mais bordel, quelle idée à la con j'ai encore eu là. Et désolée d'être vulgaire, mais c'est
vraiment... Attends, ça arrive, hein. Un petit coup de dépression.
Vraiment, voilà. Je me suis demandé.
Mais
et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette idée?
Qu'est-ce que je fous là, quoi, c'est ça? Ben non, mais ça, ça arrivait à tout le monde, ça.
Et tu ajoutes ces fameux Soundfly qui sont apparemment très aimants.
Ah oui, les Soundfly. Spéciale dédicace aux Soundfly. En effet, faut pas les oublier. Au moins, l'avantage de rouler, c'est que là, on n'a pas de problème avec les petits Soundfly, les petits moustiques. Ça, ouais, c'est la nuit dans la tente.
Ouais, mais apparemment, c'est une nuisance pas possible, tout ce que tu décris. Dans
certains
endroits.
Oui, mais c'est en effet. Mais ça reste anecdotique. Mais c'est vrai que c'est un gros défi que je me suis lancé. C'est un gros défi tous les jours, au quotidien. À chaque fois que la moto tombe bêtement, parce qu'elle fait presque 200 kilos sans compter le poids des bagages, parce que sur les graviers, il suffit que je pose mal le pied au sol pour que je la perde. Donc à chaque fois que j'essaye de la soulever ou que je découvre un virage ou une route, c'est toujours un gros gros défi. Mais je regrette pas du tout mon choix. Voilà, pas une seule seconde.
Et de rouler seul.
Donc ça, voilà, c'est une grosse, c'est une chose qui est assez intéressante, hein, la question de la solitude en voyage et à moto en particulier. Puisque je rencontre des gens, mais je rencontre pas forcément de motards avec qui partager ce voyage. Parce que bon, on sait tous que voyager à moto, ça n'a rien de comparable avec les autres voyages. J'ai eu la chance la semaine dernière de rencontrer un Québécois tout aussi frappadingue que moi sur une BMW de 1994 rouge. Donc,
vous aimez bien le rouge apparemment, hein, ça, voilà.
Ouais, voilà. Et donc j'ai pu faire un petit bout de route donc avec ce Québécois motard, et c'était vraiment sympa de pouvoir être dans le partage, échanger. C'est vrai que de rouler seul, j'apprends tout toute seule. J'ai pas de modèle, j'ai personne sur qui un petit peu copier ou à qui poser mes questions. J'ai jamais traversé de rivière avant, j'ai jamais roulé sur des graviers avant. Donc c'est vrai que tout ce que je le fais en tâtonnant. Donc forcément, je me gamelle quelquefois. Je fais pas toujours les choses bien. J'essaye un petit peu d'y aller en tâtonnant. Et c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir aussi partager ça avec d'autres personnes par moment. Donc je dirais que c'est l'aspect peut-être des fois le plus difficile du voyage, c'est le fait d'être en solo.
Mais être en solo, ça te donne quand même des perspectives de rencontres que tu ne ferais pas, comme tu l'écris, si tu étais accompagné.
Exactement. C'est aussi la différence. Quand on voyage seul, on est rarement seul, en fait. Hein, et on est beaucoup plus ouvert aux autres, et on est beaucoup plus ouvert à l'improvisation, et c'est ce que j'adore dans ce type de voyage.
Et tu vois, on a évoqué Anne-France Daudeville lors de l'émission, parce qu'elle va participer à la journée qui est organisée par toutes les ch'tis à moto, et à écouter ses interviews et à te lire, je me suis dit qu'il y avait une chose qui à 40 ans d'écart, quoi, quasiment, qui demeure, parce que quand elle l'exprimait, bon, elle ne mettait plus au présent, je dirais. Or, à te lire, je me dis que ça existe toujours. Elle disait que quand elle était seule, quand elle roulait seule, tout le monde venait la voir. Et qu'elle était partie pour aller voir des paysages où il n'y aurait pas d'humains, des paysages vierges. Et finalement, elle a rencontré beaucoup de l'humain. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Oui. Ouais.
Moi, à te lire, c'est ce qui m'est apparu quand.
Ouais, c'est vrai que quand on me demande pourquoi j'ai choisi la Nouvelle-Zélande, ma facette très très sympathique répond parce qu'il y a plus de moutons que d'humains dans ce pays. C'est vrai que c'était une des choses qui m'attirait le plus. Et au final, les quelques humains qu'il y a là-bas, je suis quand même très très contente de les croiser. Et c'est vrai que dès que je pose la béquille au sol, généralement, il y a des gens qui viennent me voir. Encore la semaine dernière, je me suis arrêtée sur un parking, et puis au bout de deux secondes, on est venu me proposer une bière. Donc C'est vraiment assez improbable et, oui, bah, écoute, et vraiment
après,
chouette.
Oui, bah écoute, une Française seule en moto, forcément aussi.
Exactement.
Ça fait le contact. Hein.
C'est ça. Alors, c'était des conversations intéressantes à avoir justement avec ce Québécois. D'ailleurs, petit coucou, il doit sûrement être en train de nous écouter. Parce que, c'est la question, c'était quel est l'intérêt que lui, en tant qu'homme, il peut recevoir lors de son voyage. Et c'est vrai que le fait d'être une femme change complètement le regard. Je pense que, quoi qu'il arrive, quand on fait de la moto, on attire beaucoup l'attention, on attire l'intérêt des personnes qui roulent, des personnes qui ne roulent pas, mais l'intérêt de celles qui roulent aussi encore plus. Mais il est évident, et ça je l'ai remarqué dès mon voyage à vélo, il est évident que quand on est une femme, il y a encore plus d'attention ou d'intérêt. Alors les gens ont envie de aider, de protéger, et ils sont en même temps aussi très impressionnés. Donc je le prends pas mal. Je suis toujours, ça me fait toujours un peu sourire de voir ou d'entendre comme question. Mais c'est vous qui roulez sur cette moto ? Et en général, je regarde autour de moi et puis je fais le constat que ah. Bah oui, il
n'y
a personne d'autre, c'est bien moi.
Donc
si tu es toute seule, forcément c'est toi.
Il y a quand même maintenant beaucoup de motards, ce n'est pas encore banal de voir une fille rouler en moto, on va dire.
Non, malheureusement c'est pas encore banal et je suis très contente au final de participer un peu à ça et avec mes godillots un petit peu d'enfoncer encore ces portes à moitié ouvertes et puis de... Voilà, même si je fais pas tout parfaitement, même si j'ai pas la technique, la force physique peut-être que peut avoir un homme, la technique de motard expérimenté, je m'en fous, j'ose, j'y vais, j'apprends. Et c'est tout à l'heure, j'aimais bien l'intervention des personnes avant moi, de toutes les ch'tis à moto, voilà, sur le fait, la fierté d'avoir fait une vidange, d'avoir réparé des petites choses sur une moto qui semble complètement banale pour n'importe quel motard, mais c'est vrai que j'ai plus envie, moi, d'avoir honte de pas faire parfaitement comme un homme ou je fais.
On a tendance à idéaliser les hommes, Fanette, hein. Je ne sais pas s'ils font tout bien comme...
Un livre quand tu vas rentrer en France.
Je sais pas.
Mais il faut lire le blog déjà.
Je sais pas du tout si un livre peut vraiment avoir un intérêt, si même j'en serais capable, mais pourquoi pas, on verra. En tout cas, aujourd'hui, j'ai fait ma demande de visa pour l'Australie.
Ah, c'est plus grand encore, hein. Et attention là-bas, les kangourous, hein, parce que là, il paraît que ça traverse la route, ça prévient pas. Hein.
Voilà, non, là, il faut pas rouler la nuit, oui, ça, j'ai bien compris.
Voilà.
Mais voilà, donc là, j'ai fait ma demande de visa vacances-travail pour l'Australie, donc...
T'es pas sûr d'être là l'année prochaine, non, pour aller à Écaillon, pour la 6e fête des ch'tis à moto.
Un aller-retour, peut-être.
Non.
Ou un aller-retour.
Dans deux ans, avec Anne France d'Hauteville, on mettra les deux face à
voilà. On mettra les deux, alors, voilà, avec Anne France et toi, la Fanette.
Ça va être impressionnant.
On va devoir se quitter. Bonne nuit, parce que je sais, maintenant il est plus minuit, il est 1h du matin, le vent en Nouvelle-Zélande. Voilà, et puis
on relaie le lien.
Fais attention à toi.
Que tout le monde puisse te suivre.
Et le lien, on voit toutes tes photos, il y a 4000 photos, là, je crois, on est en direct, hein, sur ici dans les studios. On te voit, hein, sur les motos, hein, j'ai montré les photos à toutes les ch'tis à moto, hein, elles sont tous restées là, scotchées, esbahies par toutes tes photos, hein. Voilà, donc tu vois, ça fait le buzz ici déjà dans les studios déjà. Et donc on espère te retrouver bientôt ici en France et tu viendras nous raconter ton histoire, ton périple. Maintenant, oui, puis,
bon, mais continue à suivre Fanette en Nouvelle-Zélande.
Et on te suit sur le Facebook.
Voilà. Et on essaie de relayer au maximum les photos que tu peux mettre, Fanette.
Une bonne nuit.
Bien, merci beaucoup pour l'invitation et puis merci pour ce que vous faites. Je tenais juste à vous dire que c'est quand même vous qui m'avez mis le pied à l'étrier, hein, qui t'en coûtait tout pâle et puis toute la bande.
Il y a un petit peu ton père aussi. Hein.
Un petit peu.
Voilà, très bien. Allez, bonne nuit et puis on se retrouve bientôt et fais attention à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
off your throne. Stop using my true heart. It's just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you?
Voilà, l'émission se termine. Dimanche prochain, nous retrouverons Fanette pour la suite de ses aventures, mais en Australie cette fois. Surtout, prenez bien soin de vous. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit.